Question d'islam par Al-Bunshir. Aujourd'hui, nous parlons de psychanalyse et de spiritualité, spiritualité notamment en contexte islamique, sagesse soufie, psychanalyse, avec Jean-Bruno Falguière. Jean-Bruno Falguière, bonjour.
Bonjour.
Je suis extrêmement heureux de vous recevoir. Vous êtes les deux à la fois, vous êtes psychanalyste, écrivain, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, et vous êtes aussi un aspirant à la sagesse, et notamment dans sa veine soufie, mais pas uniquement. Vous avez été toujours adepte aussi de la gnose chrétienne, et vous vous êtes intéressé, à ma connaissance, à l'évangile selon Thomas, et donc vous êtes à l'interface, à moins que ça se connecte l'une et l'autre, la psychanalyse et la spiritualité. Comment présentez-vous les choses ?
Je dirais que l'aventure, elle commence vraiment lorsque je me rends compte, je démarre mes études de psychologie en 1970, si j'ai bonne mémoire, et je me rends compte que dans ces études, quelque chose me manquait. En fait, j'étais poussé à une autre compréhension de l'humain. Je dirais que c'était à la fois très intuitif, mais c'était aussi très impératif en moi. Et donc, je dirais presque tout naturellement, j'ai commencé à m'intéresser très fortement à cet aspect de la psychologie qu'on appelle la psychanalyse.
Alors, qu'est-ce qui fait l'homme ?
Oula ! L'homme, c'est à la fois une créature psychologique. Je vous parle de mon expérience, je ne suis pas en train d'affirmer quelque chose de scientifique.
Oh, c'est une question quasi inépuisable et tout ce qui a été construit, pour certains, est tombé en obsolescence, pour d'autres, c'est toujours à réactualiser.
C'est une aventure qui se réactualise effectivement sans cesse. L'homme, c'est une créature psychologique, parce que c'est une créature qui est dotée d'un corps émotionnel affecté, qui peut lire ses émotions et d'un mental. Ce qui est quelque chose en soi déjà d'assez miraculeux. Et c'est aussi un être spirituel. Et il me vient là cette réflexion de Teilhard de Chardin qui disait « Nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons une aventure spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une aventure humaine. » C'est très étonnant de poser chez l'homme, en tant que créature psychologique, cette confrontation avec ce qu'on appelle l'ego. C'est une question sur laquelle j'ai tourné pendant des années. Et c'est vrai que dans l'aventure psychanalytique, je me suis bien sûr intéressé aux travaux de Sigmund Freud. J'étais très intéressé aussi par les travaux de Lacan, qui apportait pour moi une note assez étonnante, qui était à la fois pleine d'intelligence, pleine d'instinct, pleine d'humour. Et lorsque Lacan disait que l'inconscient est un langage, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais où est-ce qu'il m'entraîne ?
Vous avez à un moment donné parlé d'égarement. Vous étiez égaré par le doute, la peur, la culpabilité. Comment vous êtes-vous affranchi de cela, ou comment avez-vous trouvé la voie ?
Vous voulez dire la voie soufie ?
La voie, tout court. Enfin, oui. Si on est égaré, c'est qu'on n'a pas trouvé.
J'étais effectivement.
Je ne l'ai pas encore qualifié de soufi ou pas. Je laisse ça pour un peu plus tard.
Oui. J'étais égaré très tôt en tant qu'enfant. Et je portais, et c'est curieux comme la mémoire de cette sensation profonde est restée très vivace en moi. Je portais en moi ce que je pourrais appeler aujourd'hui la nécessité d'un Dieu.
Mais un être très jeune. Nécessaire.
C'était à la fois nécessaire et ça ne pouvait pas être autrement. Parce que l'enfance que je vivais, elle était ce qu'elle était, mais elle n'avait pas de sens, elle n'était pas supportable, elle n'était pas acceptable si je ne sentais pas vibrer en moi, effectivement, cette présence. Bien sûr, à cet âge-là, je l'expliquais absolument pas. Mais c'est aussi tout ce questionnement qui m'a amené à la psychanalyse. Et effectivement, il y a eu la rencontre avec Carl Gustav Jung. Alors l'œuvre de Jung, elle a répondu, je dirais, finalement, à la totalité, je vais le dire comme ça, de mes interrogations psychologiques. Parce qu'il posait quelque chose qui me semblait incontournable, inévitable, c'est l'existence d'un être spirituel et d'un être psychologique.
Les latins, les auteurs latins disent c'est l'existence, quoi qu'exister, c'est sortir d'eux. Je ne sais pas si Dieu sort de quelque part, il est tout en étant, tout en ayant été, il sera. Mais je voulais dire que c'est un être nécessaire, donc il est là par lui-même, per se, pas par la présence d'autrui. Donc c'est ça l'être nécessaire. Et vous dites que l'humain est avant tout un être psychologique aussi.
Non, je dis qu'il ne peut pas ne pas passer par l'aventure psychologique, mais il est avant tout un être spirituel.
Qui se découvre être un humain selon la formule de Teilhard de Chardin et non pas l'inverse.
Voilà, exact.
Après votre rencontre, je le dis comme profane, la psychologie des profondeurs jungienne, qu'est-ce que ça vous a donné comme approche d'autrui, de l'autre?
Je crois que la chose principale que ça m'a donné, ce que ça a ouvert dans l'exercice de ma profession, ça a ouvert la possibilité de considérer l'autre non pas uniquement à partir de ses comportements psychologiques, mais de le considérer comme un être qui est appelé par l'amour, par un être qui est lancé dans une aventure à laquelle il ne comprend pas forcément grand-chose, mais qui, en tout cas, à travers les questions qu'il vient poser dans le cabinet d'un psychanalyste, Jung, l'esprit de Jung, me permettait effectivement de commencer à aborder la question de l'être spirituel, avec la personne qui venait avec sa créature psychologique. Voilà. C'est-à-dire, ce que je dis, j'ai dit un jour cette chose, je disais que je ne peux pas concevoir une thérapie qui ne prenne pas en compte l'être sacré à l'intérieur de chaque humain.
Et ça, vous l'avez aussi découvert en fréquentant, si je puis dire, Thomas, bien que son évangile soit apocryphe. Mais vous trouvez dans les logias, il y a 114.
114 logions, oui.
Et cela entre en résonance avec les 114 sourates du Coran, même si ce n'est pas du même ordre, un apophthegme mais une sourate, mais il y a une résonance.
Il y a une résonance très très forte, et d'ailleurs elle ne m'est pas apparue tout de suite. Elle ne m'est pas apparue tout de suite parce que l'aventure avec l'évangile selon Thomas... Je parle de l'évangile qui a été traduit par Émile Gilabert, et si j'ai bonne mémoire, Pierre Haas et Yves Bourgeois. Ce sont trois gnostiques qui ont fait un travail assez stupéfiant, assez extraordinaire. Et la rencontre avec l'évangile de Thomas, c'est une aventure qui a duré 10 ans.
Vous avez étudié tous les logias?
Chaque logion, je le lisais au moins 2 fois par jour, et je relisais leurs commentaires, leurs traductions. C'est une rencontre, vraiment. Et ça ouvrait des choses à l'intérieur de moi qui m'amenaient vraiment à une autre compréhension du monde, une autre compréhension de l'humain, une autre façon d'envisager la vie humaine dans ce monde, l'aventure humaine, dans l'univers tout entier. Et effectivement, derrière cet évangile, je voyais aussi et je percevais aussi à travers les paroles de Jésus qu'il tenait compte de l'aventure psychologique, il tenait compte de ce qui constitue l'humain en tant que créature psychologique, avec un ego, avec un mental, avec des doutes, avec... C'est une aventure qui m'a totalement éveillé finalement à ce que je cherchais depuis des années. Et effectivement, il m'est apparu à un moment donné, mais là j'avais déjà démarré une autre aventure, et c'est quelque chose qui s'est mis à résonner, je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a effectivement 114 logions et il y a 114 sourates. Quand cette résonance a eu lieu, je lisais déjà, en français parce que je ne lis pas ou très mal l'arabe, je lisais le Coran, tous les jours aussi.
Ah oui, et Jésus, en tout cas, en l'occurrence, c'est un maître spirituel, sans vouloir commettre le moindre anachronisme, qui agissait en psychanalyste.
Il présentait en tout cas, dans ce que j'en ai perçu, dans ce que j'en ai lu, il présentait en tout cas à l'humain une aventure qui tenait compte de sa constitution psychologique, mais bien évidemment, il y a derrière les Logan un enseignement, il délivre un enseignement juste incroyable. Il amène vraiment ses disciples à une compréhension, comment je vais dire ça, ontologique du monde et de la vie. Il me semble que le grand message de Jésus, c'est l'amour.
Et il a, pour ceux qui l'entendent, ceux qui l'entendent au sens espagnol, il le comprend, il l'entend en même temps. Ça le déculpabilise, ça le rassérène, n'aura plus peur, et il retrouve la voie. Encore une fois, au sens premier, il ne sera pas égaré.
Finalement, je me suis rendu compte, et ça c'est l'enseignement que j'ai suivi après, lorsque j'ai rencontré ce maître soufi dont nous parlerons peut-être tout à l'heure.
Même sûrement.
Voilà. Le grand problème de cette humanité, c'est la peur. Et je peux dire en tant que psychanalyste, en tant que chercheur tout simplement, en tant que témoin, que le pire fléau, c'est la culpabilité. Parce que finalement, la culpabilité alimente, c'est un fleuve qui alimente sans cesse l'océan de la peur. Et se libérer de la culpabilité et donc se libérer de la peur, je pense que c'est là peut-être que on commence à accéder à une autre compréhension de notre présence dans ce monde, de ce qu'est ce monde, de ce qu'est l'univers. Bon, je ne sais pas si nous aurons le temps d'en parler, mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le cheminement spirituel, il est clair que la vision de la psychologie change. Et je me suis aperçu, au bout d'un moment, que si la psychologie pouvait soulager efficacement les êtres humains de leur culpabilité et de leur peur, je me suis rendu à un moment donné à l'évidence que la véritable guérison, elle serait spirituelle.
Jean-Bruno Falguière, nous aurons le temps d'en parler, c'est important. Comment naît le sentiment de culpabilité, finalement, pour pouvoir l'enrayer, l'amoindrir, et même l'effacer. Mais au départ, pour que nous comprenions, pourquoi est-ce que les hommes, les êtres humains, sont minés par ce sentiment de culpabilité?
Parce que, elle est terrible votre question, parce qu'ils ont un mental. C'est incroyable de voir que le mental humain, il est à la fois l'initiation, mais qu'il peut aussi être notre condamnation. Je parlais de cela avec Annick de Souzenel il y a quelques jours, et elle me disait, finalement, le mental est un serviteur. Mais si le serviteur se prend pour le pharaon, c'est terrible. C'est terrible parce que tout à coup, c'est comme si l'homme, en tant que créature mentale, se croyait autorisé à dicter la loi, alors qu'il appartient à la loi.
Je vous ai entendu dans un autre contexte dire qu'il ne peut pas y avoir de serviteur s'il n'était pas devancé par la servitude.
Je crois que là, vous touchez au sens profond du mot islam. C'est-à-dire, effectivement, ce n'est qu'en tant que serviteur que l'on peut cheminer sur le chemin de la libération et d'une véritable compréhension de notre présence dans ce monde.
Oui, le sens étymologique n'est nullement soumission, comme certains le disent, soumission morose, une résignation maladive, avec abdication de sa raison et de son esprit. C'est une déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix, être au service d'eux. C'est une allégeance à l'infinie seigneurie de Dieu. Mais on peut faire acte d'islam si ça prend à quelqu'un. En réalité, l'étymologie du mot, avec la racine trinitaire SLM, salam, qui renvoie à la paix et au salut, a cette idée à la fois de service et de cheminer vers une pacification intérieure.
C'est exactement ça, je pourrais pas le dire mieux.
Bon, c'était simplement pour avoir votre approbation, si j'étais...
Ça me semble très important de le préciser, parce qu'effectivement, certaines traductions sont un petit peu lapidaires et elles peuvent effectivement prêter à confusion. Le terme soumission, par exemple, s'il est pris dans un sens un peu radical, va éveiller la culpabilité. Parce qu'immédiatement, effectivement, ce terme sera saisi par une considération mentale qui va commencer à dissocier les choses et voilà, à faire des propositions d'interprétation qui peuvent mener à la culpabilité. Le problème du mental, c'est la dualité. C'est cette dualité, en fait, qui nous a amené à la culpabilité.
Oui. J'aime à rappeler cette idée qu'une fiction littéraire, un roman d'un écrivain intitulé « Soumission » a été traduite en langue arabe. Et on ne l'a jamais traduit par islam. Donc on a trouvé le mot adéquat.
Oui.
Et ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas une stricte synonymie dans une traduction mot par mot. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le psychanalyste et essayiste, l'écrivain Jean-Bruno Falguière, pour parler de ces deux pendants, la psychanalyse et la spiritualité, afin de libérer l'homme, l'être humain, notamment du sentiment de culpabilité qui est, j'ai cru le comprendre, fatal pour l'homme s'il ne s'en libère pas. Et pour cette deuxième phase, si vous voulez bien, Jean-Bruno Falguière, dites-nous comment votre rencontre a-t-elle eu lieu avec un maître soufi ?
C'est curieux parce que c'est venu dans mon cabinet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis mis réellement à tourner en rond dans le domaine de l'exercice de ma profession. Malgré le fait que la dimension spirituelle faisait partie de ma pratique, elle l'a toujours fait. Et elle n'a fait que s'accentuer au fil des années. Mais à un moment donné, je me suis mis à tourner en rond, je me sentais seul, isolé. Je pourrais même dire que finalement, il y avait une espèce de sentiment de vide, une sorte de noyau un peu dépressif. Bon, j'étais pas dépressif, mais c'était quelque chose qui était vécu un peu comme ça. Et j'ai compris à ce moment-là que je devais m'engager de manière beaucoup plus approfondie dans le chemin spirituel. Alors j'ai été à la rencontre de plusieurs personnes, j'ai fait plusieurs tentatives, notamment avec Arnaud Desjardins, avec d'autres. J'ai commencé à lire certains maîtres, je me suis passionné pour les écrits de Rumi, je suis même parti à Konya pour visiter le mausolée, le Mevlana.
Et Mevlana, pour nos amis auditeurs,
oui,
est notre maître.
Voilà, notre maître qui est aussi le nom du mausolée extraordinaire de Rumi qui est à Konya. Et à Cognac, j'ai été touché au cœur, mais vraiment touché au cœur. Et j'ai rencontré un homme, c'est un homme qui est venu vers moi, qui faisait office de guide pour la visite donc de ce mausolée. Et nous avons eu une conversation. Je crois que sur le moment, je n'ai pas tout compris, mais je savais que j'étais touché au plus profond dans mon cœur. Enfin, voilà, de pérégrination en pérégrination, il y a eu, donc, comme je le disais tout à l'heure, cette rencontre avec l'Évangile selon Thomas. Et puis également, conjointement à cela, une grande attirance pour le Maroc. Donc je partais régulièrement en terre marocaine.
Avec quelques idées, quelques phrases d'un logion ou un autre de l'Évangile selon Thomas?
Alors, j'étais dans la lecture de l'Évangile selon Thomas, que j'amenais avec moi. Et la deuxième année où je suis parti au Maroc, je suis parti avec l'Évangile selon Thomas et je suis parti avec un petit livre d'un maître soufi qui s'appelle Iskandari. Je dirais, j'ai oublié le nom, je ne l'ai plus en tête. Je suis un peu ému là, donc. Et effectivement, je lisais ces textes d'Iskandari qui étaient une véritable merveille. Et je voyais des résonances des deux côtés. Et puis alors, il s'est passé quelque chose en terre marocaine, mais dès mon premier voyage, je ne peux pas vous expliquer pourquoi.
Ça relève de l'inexpliqué.
Voilà, tout à fait. Je peux dire juste que j'avais tout le temps envie de m'agenouiller et de prier. J'étais très surpris par cette montée. Émotionnellement, c'était très très fort. Et j'ai donc demandé, lors de mes pérégrinations, à un ami marocain qui nous guidait également, s'il voulait bien m'apprendre une prière. Finalement, je ne le savais pas encore, mais l'aventure avait commencé. Voilà.
Chez les maîtres soufis, ou même dans la tradition, on dit qu'il y a deux sortes d'accès, si je puis dire, au trésor de la spiritualité. Il y a celle où l'on est ravi à soi-même, le ravissement, et il y a l'itinérance. Vous avez combiné les deux, vous avez été ravi à vous-même, vous avez été saisi, ou parce que j'ai entendu deux fois pérégrination, est-ce que dans cette itinérance de tel ou tel pôle, je parle de la topographie spirituelle, je ne parle pas des pôles en tant qu'être humain, représentant de Dieu sur terre pour certains. Comment pourriez-vous nous dire ce saisissement, ce ravissement a pu avoir lieu, s'il a eu lieu?
Il a eu lieu, je vais même vous raconter comment il a eu lieu la première fois. Lors de mes voyages au Maroc, je me suis éveillé en pleine nuit, mais en sursaut. Du coup, j'ai éveillé ma compagne, qui comprenait pas ce qui arrivait. Et je lui ai dit, mais j'étais comme un enfant. Je lui disais, mais je ne suis pas moi, je ne suis pas moi, je ne suis pas moi. Je suis ce qui m'anime. C'était, je vois si on peut parler d'un éveil, mais enfin, c'était quelque chose qui m'amenait à une perception de ma présence dans ce monde et une perception du monde totalement différente. Et cette impression très très forte, elle a duré plusieurs heures. À tel point que lorsque je me suis levé, j'ai été boire un thé, et lorsque je servais le thé dans un verre, en réalité, j'avais une perception de la théière et du verre qui avait totalement changé, à tel point que tout à coup, je dis à ma compagne, mais je lui ai dit, finalement, la simplicité est un accomplissement divin. C'est-à-dire que quelque part, dans chaque chose qui m'entourait, je ne voyais que la beauté de la présence de Dieu. Voilà. Ça a été la première expérience.
Alors, toujours que la suprême théophanie, l'apparition du divin, est dans la beauté, et la beauté même.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans une longue prière, sur la question de la beauté, je me rappellerai toujours, j'étais dans un avion, je revenais de visiter mon maître, et je regardais à travers le hublot, et cette année-là, la France était couverte de neige. C'était magnifique, c'était au mois de février, il y avait un soleil radieux, et tout le pays était couvert de neige. Ça s'est pas vu depuis très longtemps. Je regardais ça, j'étais en prière, et j'ai entendu dans mon cœur la voix de mon maître qui me disait « La beauté est une fissure dans les apparences qui laisse passer la lumière de Dieu ».
Jean-Bruno Falguière, dans votre récit, puisque là, ce que vous nous dites relève de l'expérience, et ça n'est qu'un témoignage, et nous plaçons d'emblée, et surtout vous, dans un plan testimonial pour une présentation expérientielle de ce que vous avez ressenti. Donc ce n'est pas explicable, ce n'est pas mathématisable, toujours est-il que quelqu'un vous a appris une prière. Et après, comment avez-vous rencontré celui qui sera votre maître ?
Il y a eu plusieurs pérégrinations, plusieurs rencontres, et notamment, très vite, une rencontre en Tunisie. Cette fois, j'étais allé en Tunisie sur la colline de Chénini. C'est dans le sud tunisien. Et je montais pour visiter cette colline, au sommet de laquelle il y a une petite mosquée du XIIe siècle, si j'ai bonne mémoire. Et j'arrivais avec un petit groupe de personnes, on était peut-être 8. Et il y avait, à l'entrée de cette mosquée, un homme que j'ai trouvé en tout cas très grand, un homme sans âge, qui était habillé dans une sorte de grand sari blanc. Il avait un grand bâton à la main, il était à l'entrée de mosquée et il ne bougeait pas. Et quand je suis arrivé au sommet, j'ai croisé le regard de cet homme. Cet homme, il avait un regard de feu. Il y avait quelque chose qui m'a complètement hypnotisé. Et je suis resté là, je saurais pas vous dire combien de temps, jusqu'au moment où il a fermé les yeux et je me suis retrouvé en haut de la colline. Tous les gens avec qui j'étais étaient partis. Et en fait, je suis redescendu et il m'attendait. J'étais resté là une demi-heure. Et la nuit qui a suivi, j'ai été réveillé. C'est un peu fou ce que je vais vous raconter, mais c'est comme ça que ça s'est passé.
Nous vous écoutons.
Et cet homme, la présence de cet homme était en moi. Et j'ai eu le besoin impératif, comme si c'était lui qui guidait ma main, d'écrire. Voilà. Et je me suis mis à écrire... tout ce que, je dirais, entre guillemets, il me dictait. Bon, je ne l'explique pas non plus.
C'est en cela que vous êtes le scribe de Dieu.
Alors, le scribe de Dieu, en réalité, c'est mon maître, Sidi Hamza. Et moi, je suis son scribe à lui. C'est une histoire que je vous raconterai après. Et donc, cet homme me dictait une chose, et ce qu'il m'a dicté, c'est très exactement le travail qu'il me demandait de créer. Il me dit, tu vas avoir une réflexion qui durera 2 ans, et ce travail s'appellera « L'autre est une école ». Et j'ai attendu les 2 années, et effectivement, au bout de 2 ans, un groupe s'est créé. Et comme par hasard, un groupe de 8 personnes, c'était tous des psys.
L'autre n'est pas l'enfer. Les autres ne constituent pas le huis clos infernal. L'autre est une école.
L'autre est un enseignement.
L'autre est un enseignement et une initiation.
C'est un enseignement, c'est une initiation. Et c'est en cela que l'aventure humaine est tout à fait extraordinaire. C'est lorsqu'on le voit, lorsqu'on peut effectivement se reconnaître dans cette aventure à travers le visage de l'autre, alors dans les relations humaines, ça devient tout autre chose.
Là, vous avez rencontré un maître en Tunisie. Et après, vous repartez au Maroc.
Oui.
On est dans les contextes islamiques, comme on dit maintenant. Et de pérégrination en pérégrination, vous rencontrez Sidi Hamza qui a quitté ce monde le 18 janvier 2017.
C'est ça, exactement. Et alors, effectivement, j'avais rencontré un groupe soufi qui travaillait en France, j'avais un ami qui était parmi eux, alors j'allais à leurs conversations, je les fréquentais, j'allais dîner avec eux, je me sentais bien avec eux. Et effectivement, il s'est produit un jour cette chose qui est que un de ses frères, un de ses soufis, est venu, qui était assez proche de moi, est venu et il m'a dit « Voilà, j'ai quelque chose à te donner. » Et il m'a donné ce qu'on appelle un dhikr. Il m'a dit comment le pratiquer, combien de fois.
Un dhikr étant une mémoration, une souvenance, une litanie.
Oui, une invocation.
Une invocation. Voilà.
Et donc j'ai pratiqué ce dhikr, je l'ai pratiqué pendant 2 mois. Et à l'intérieur, s'est produit peu à peu une transformation très forte. J'étais de plus en plus sensible à certaines choses. J'étais dans un désir de prière de plus en plus profond. Et donc, je suis allé voir cet ami qui m'avait donné ce dire. Je lui ai dit, écoute, ce que tu m'as donné, je pratique, mais voilà ce qui se passe dans mon cœur. Il y a des ouvertures, etc. Et là, il me dit, bon, ben, viens avec moi. On était chez lui. Il m'a amené dans sa chambre et il m'a montré le portrait de Sidi Hamza. Et il m'a dit, c'est lui qui t'a donné ce dire. Et là, je me suis effondré en larmes. Mais complètement, à tel point, j'étais tellement touché que je lui ai dit, écoute, je peux pas rester avec toi, il faut que je rentre chez moi. Je suis rentré chez moi et je suis resté en prière pendant 2-3 heures, le temps que j'étais mais vraiment touché au plus profond de mon cœur. Je ne savais pas pourquoi, je ne l'expliquais pas, donc je le vivais. Et effectivement, 15 jours plus tard, cet ami m'a appelé, il m'a dit, Sidi Hamza t'invite 3 jours chez lui. C'était en plein Ramadan. Et donc, je suis parti 3 jours et j'ai tout de suite rencontré ce maître. Le saluer, il m'a salué. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'au moment où j'ai rencontré cet homme, j'ai eu l'impression que c'était un fleuve de miséricorde qui m'emportait. Et j'ai passé le pacte, on appelle ça comme cela, dans une confrérie soufie. J'ai passé le pacte avec ce maître et il m'a donné mon nom musulman. Il m'a appelé Ilzam. Je suis resté les 3 jours et effectivement, le 3e jour, je devais rentrer chez moi. J'ai cru que j'y arriverais pas.
Puis-je vous poser la question, c'était quand, avant son rappel au compagnon suprême, une manière de dire « il a quitté ce monde », c'était quelques années, plusieurs années, chez les puristes de la langue française, quelques n'est pas plusieurs. Donc,
Très clairement, je l'ai rencontré en 2011.
Ah très bien, donc 6 ans avant son décès.
Et c'est, voilà, 6 ans avant son décès, et ça a été un enseignement extrêmement intense. Je pourrais vous en parler un peu, si vous voulez.
Je vous en prie.
Et voilà. Et donc, dès que je suis rentré en France, alors il y avait un mokadam, c'est-à-dire un responsable du groupe en France, qui me dit tu pourrais y retourner dans 3 mois. Pour moi, c'était juste impossible. Donc j'ai demandé s'il y avait possibilité de contacter quelqu'un chez ce maître pour que je puisse revenir le plus vite possible, c'est-à-dire dans le mois qui suivait. Et j'ai eu le IN. Le IN, c'est l'autorisation. J'ai eu l'autorisation de le revisiter. Et en fait, donc, je suis parti, je crois, 3 semaines plus tard. Et à partir de là, je lui ai rendu visite tous les mois.
Peut-être que les auditeurs aimeraient bien savoir de quelle confrérie soufie s'agit-il. Donc c'est la confrérie Boutchichia.
Voilà, c'est la tariqa Kadiria Boutchichia, oui.
Les auditeurs ne le savent pas nécessairement, donc elle s'enracine, le maître éponyme est le maître Abdelkader Jilani.
Oui, tout à fait.
Inhumé à Bagdad, on est au 11e siècle. C'est et ça. Après, elle va connaître dans sa constellation quelques branches et on aura une au 18e siècle qui sera au nord-est du Maroc.
Oui, tout à fait.
أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك فما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le psychanalyste et écrivain Jean-Bruno Falguière, qui est aussi essayiste, auteur de nombreux ouvrages, qui nous a enseigné que l'autre est une école, l'autre est un enseignement, c'est l'enseignement du jour, hein, Jean-Bruno Falguière. Et là, dans ce récit qui est le vôtre, celui de votre rencontre avec un maître spirituel, et ce flot de miséricorde qui émanait de lui, vous a saisi et vous êtes allé le revoir plus tôt que prévu, parce qu'il vous a donné ce idn, qui est l'autorisation. À d'autres, ils n'ont peut-être pas ce privilège. Comment expliquez-vous ceci?
Vous savez, un jour, un homme avec qui j'avais travaillé quelques années, avant toute cette aventure que je viens de vous raconter, qui était un homme assez terrible, il s'appelait Louis Sansa, c'est un homme très particulier. Et un jour, un psychiatre lui a dit « Mais comment se fait-il que vous ayez ces échanges comme ça avec Jean Bruno, alors que nous, on n'arrive pas à vous parler ?» Et il avait répondu ceci, puis... Alors oui, ce psychiatre lui disait « Mais il avance, il vous parle de tas de choses qu'on voit pas. » Et Louis Sansa lui avait répondu, il lui avait dit « Eh bien, il avance parce que lui, il cherche pas à comprendre. Il fait ce qu'on lui dit, et après, de surcroît, il cherchera à comprendre. » Je crois que c'est, finalement, toute mon aventure spirituelle, elle est fondée là-dessus. Je ne suis pas un érudit, je ne suis pas un grand connaissant, je dirais, de toute la culture arabe, islamique. Bon, même si j'ai lu beaucoup de choses, je suis plutôt un témoin. Et effectivement, je crois que la réponse, elle est là. C'est ce maître, finalement, m'a pris avec mon cœur, il le sentait. Et pour répondre plus précisément à votre question, curieusement, les autres Fokara français, à partir du moment où j'ai pu y aller tous les mois, ont été autorisés à y aller tous les mois.
Alors, Fokara, c'est le pluriel de fakir, le fakir que nous connaissons, même si ce sont les contextes plutôt indiens, voire chez certains hindous.
Oui, tout à fait.
Mais là, c'est le pauvre en Dieu, ou le pauvre de Dieu, qui veut être comblé par la présence divine.
C'est tout à fait ça. Le pauvre au sens où on parle, Maître Eckhart, également, il en parlait, le sermon sur la pauvreté. C'est ça, c'est le pauvre en Dieu. Et en réalité, ce pauvre, le jour où son cœur s'éveille, il est extrêmement riche.
Alors, vous êtes un témoin, et c'est vrai, nous vous en savons gré, parce que vous nous faites part de votre expérience, qui est très riche. Je vous pose tout de même la question, pas à vous personnellement, mais d'une manière générale, ceux qui disent que lorsqu'on demande aux pauvres en Dieu ou à ceux qui sont en quête spirituelle de ne pas chercher à comprendre, mais plutôt de se laisser voguer, de se laisser pénétrer, dans certains cas, pas la vôtre et pas votre cas, et heureusement, serait la brèche ouverte à une forme de charlatanisme. Comment fait-on pour en être immunisé?
Vous avez raison tout à fait de le préciser, parce que, bien évidemment, quand Louis Sansa avait dit cette chose, il fait ce qu'on lui dit et après il cherche à comprendre de surcroît. Ce n'était pas dans le sens, effectivement, d'être un disciple totalement inconscient, appliquant sans comprendre ce qu'on lui dit et sans aucune compréhension de l'échange que je pouvais avoir avec ce maître. Donc, effectivement, il ne s'agit absolument pas d'être embrigadé en quoi que ce soit. Et la question que vous posez, elle m'amène justement à préciser une chose. Je suis beaucoup plus un être de conscience qu'un être de croyance. Et je suis très proche de ce que disait un maître qui s'appelle Alaoui et qui avait dit un jour « Celui qui voit n'a plus besoin de la foi. »
Et l'organe de perception par excellence étant le cœur et pas l'œil, donc le véritable être éveillé, c'est celui qui perçoit par son cœur.
C'est exactement ça.
Jean-Bruno Falguière, dans votre ouvrage, le scribe de Dieu, le scribe de Dieu étant ce maître spirituel, et vous, vous êtes le scribe du scribe, si j'ai bien compris.
C'est tout à fait ça.
Vous évoquez la part féminine de la relation au divin, donc vous parlez des femmes de Dieu. Comment êtes-vous amené à prendre en considération cette dimension féminine?
C'est une vaste question qui nous amène effectivement à une interrogation précise, probablement d'un certain point de vue sociétal et politique sur la place de la femme, mais en réalité ce que vous évoquez c'est bien autre chose. L'homme et la femme sont les deux singularités du même être humain. La part féminine, c'est la concavité, c'est l'accueil, c'est la part de Dieu qui invite à la compassion, qui invite à la miséricorde, qui invite à cette rencontre avec la beauté, mais la beauté qui s'enrichit d'elle-même et effectivement qui éveille le cœur de tous les disciples, hommes ou femmes, à une vision totalement différente du monde qui nous entoure et de l'aventure humaine. Le premier enseignement que j'ai reçu de Sidi Hamza, c'était mon deux ou troisième jour de prière dans les jardins de Naïma, qui était sa maison, a été celui-ci. Il me disait, si tous les actes que tu poses ne servent pas l'amour, alors tes actes ne sont que des agitations qui s'ajouteront aux agitations du monde.
Et pour revenir à l'homme et à la femme qui procèdent tous deux d'une même âme unique, là je paraphrase un verset coranique, et cela sous-entend, parce que le verset coranique dit « Adorez votre Seigneur qui vous a créé d'une même âme unique et qui a instauré entre vous amour et miséricorde ». Donc cette même âme unique, c'est sexuée, en tout cas c'est séparée, et l'amour, d'abord dans un attrait physique, puis après l'amour affectif, est une volonté de cicatriser la première blessure due à la séparation.
Vous êtes un homme merveilleux parce que vous posez très exactement les questions à l'endroit de ce qui nous ramène à l'origine de notre souffrance humaine. En réalité, le grand problème, effectivement, c'est la croyance en la séparation. C'est cette croyance en la séparation qui amène dans ce monde à la fois une telle aventure, autant de souffrances, mais aussi la possibilité de s'ouvrir à cette autre compréhension qui est la compréhension du cœur, à cette vision qui est la vision des yeux du cœur, et effectivement à une libération qui nous révèle notre véritable nature.
Et vous dites, de mon point de vue, si bien, et je ne sais pas si je suis un homme merveilleux, et si c'est le cas, alors j'ai gagné ma journée, voire ma semaine, et je vous enseignerai que dans sa déambulation, dans son mouvement, il y a dans le corps de la femme, dans le mouvement féminin et dans chacun de ses gestes, une sensualité. Et c'est même la sensualité du monde. Simplement, cette sensualité est sans possession et c'est, elle chemine vers lui, lui étant le divin.
Oui, et la femme est aussi le lieu de réalisation de ce mystère de la vie qui est porteur de cette immense aventure finalement de l'humanité qui n'est, je le répète, qu'une aventure spirituelle.
Tout revient à une compréhension d'une élévation spirituelle sincère, intérieure, avec humilité, en tout cas où ne s'auto-admire pas soi-même humble, ce serait terrible.
Ah, c'est certain. C'est certain, c'est la véritable humilité. Je crois que je l'avais appelée à un moment donné dame humilité. Tellement elle est difficile d'accès, tellement il y a d'exigences. Et effectivement, l'autosatisfaction ou l'auto-admiration de soi-même nous coupe complètement de la possibilité de nous éveiller à ce qu'est le voyage possible de l'humilité en nous. Nous ne sommes propriétaires de rien. C'est tellement vrai que la manière dont ce livre dont nous parlons s'est rédigé m'a amené et m'a ramené sans cesse à chaque ligne, à chaque page, à cette question de l'humilité, c'est-à-dire cette observation de l'humilité. Je devrais dire même cette évocation sans cesse de l'humilité, parce que ce livre, je l'ai rédigé, je ne l'ai pas écrit.
Quand une fois vous en êtes le scribe, le copiste.
C'est cela, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais, voilà, je suis le scribe du scribe, finalement. Après, de copiste, oui, c'est ça.
Après le départ, le décès, la mort, nous disons les mots aussi, de Sidi Hamza, les relations se sont transmises, ont été perpétuées avec son successeur, ou il y a une spécificité propre?
Le successeur de Sidi Hamza, c'est son propre fils Sidi Jamal, qui a été initié depuis des dizaines d'années. C'est un homme étonnant, Sidi Jamal. Sidi Hamza, d'ailleurs, disait lui-même qu'il avait un amour infini pour ce fils parce qu'il avait un cœur totalement pur. Et effectivement, Sidi Hamza lui a transmis ce qu'on appelle le sir.
Le sir étant une sorte de secret initiatique.
C'est ça.
J'ai cru comprendre, je le dis sous votre contrôle, Jean-Bruno Falguière, qu'ils avaient reçu concomitamment ce fameux sir. Et Sidi Jamal disait « La barbe noire n'a pas de préséance devant la barbe blanche ». Donc, je ne me mets pas en avant, et ce n'est qu'après donc le décès de son père. Bien sûr, il y a eu cette investiture spirituelle, et maintenant, c'est Sidi Jamal qui est le maître de la confrérie.
Alors, Sidi Jamal est le maître de la confrérie, et lorsqu'il parle de son père ou qu'il l'évoque, la dernière fois qu'il l'a évoqué devant moi, c'était, il y avait un tableau dans la pièce, il disait, ah, parce qu'il a un amour infini pour son père, mais il ne dit pas « mon père », il dit « mon maître ». En réalité, cette filiation, elle est vraiment extraordinaire. Un jour, un fakir m'a demandé, au cours d'un repas, on était autour d'une table, et il me dit « mais comment as-tu vécu la transition entre Sidi Hamza et Sidi Jamal ?» Et je ne pouvais pas faire autrement que lui répondre que je n'avais pas vécu de transition.
Sidi est un titre de déférence, de respect et d'amour. Ce serait l'équivalent de Monseigneur.
Tous les fakirs, s'appellent Sidi. Et même leur maître, ils l'appellent Sidi. C'est-à-dire que tout le monde est mis sur le même plan.
On est toujours le seigneur de quelqu'un et on reçoit cette seigneurie dans une égalité réelle et de confraternité spirituelle.
Tout à fait. Sidi Hamza disait ceci, il disait « Voyez toujours la magnificence chez votre maître, mais voyez aussi la magnificence en chacun de vos frères. »
Il nous reste un peu de temps. Je voulais revenir à la psychanalyse. Vous avez un cabinet, vous avez une patientèle. Vous mettez en pratique, forcément ou pas, une part ou la totalité de l'enseignement que vous avez reçu de la part de votre maître spirituel?
Je vis avec l'éveil auquel m'a amené mon maître spirituel. Et pour être sûr de ne pas l'oublier, j'ai un jour écrit une petite phrase que j'ai tapée sur une petite feuille blanche. J'en ai fait un petit cadre que j'ai mis sur mon bureau pour être sûr de ne pas l'oublier. Et cette phrase disait « Chaque jour, à chaque instant, le thérapeute est invité à l'école de la miséricorde. »
Nous verrons à la fin de cette émission, dont nous nous acheminons très vite, que, in fine, toute une question d'amour. Mais le cheminement qui mène à l'accomplissement, comment l'avez-vous vécu vous-même? En extase, en transe, en un calme intérieur, à la sobriété extérieure, le brasier intérieur, comment les choses étaient-elles, si vous pouviez les verbaliser?
Oui, je peux le verbaliser. Il y a, vous connaissez certainement cela, des états émotionnels très très forts qu'on appelle les halles.
L'état.
Dans les prières, dans les invocations. En ce qui me concerne, les choses se sont passées un tout petit peu différemment. C'est vraiment dans le mystère de l'orientation que je crois j'ai vécu tout cet enseignement et que peu à peu s'est déployé en moi cette autre vision du monde, de l'autre, de l'humanité, du chemin de miséricorde. Et cette question de l'orientation qui est fondamentale dans l'enseignement soufi, c'est effectivement d'évoquer la présence du maître à chacune de nos invocations. Je me suis donc, pour répondre rapidement et très clairement à votre question, je me suis vraiment engagé dans le dhikr que je pratique tous les jours. Je respecte scrupuleusement toutes les indications qui me sont données. Et il y a l'évocation de la présence de ce maître qui a permis peu à peu une orientation de plus en plus forte dans une résonance et dans une présence qui est en réalité un véritable enseignement. Il y a aussi un point qui m'a frappé, qui a été quelque chose pour moi de complètement incroyable que je n'ai jamais cherché à expliquer. C'est l'enseignement du maître par le regard, ce qu'on appelle l'anidra. C'est-à-dire la manière dont il vous fait passer dans le silence, il ne parle pas, juste à travers son regard, toutes sortes de choses qui vous éveillent peu à peu dans la pratique du dhikr, à l'enseignement qu'il a déposé en vous. C'est un grand mystère, mais en tout cas, je le vis tous les jours.
Il restera ce mystère que vous vivez bien. On apprend dans la sagesse soufie que l'homme est le fils de l'instant.
Exact.
Et nous avons passé avec vous un moment très chargé. Merci Jean-Bruno Falquière.
C'est moi
qui vous remercie. Et puis la spiritualité est aussi une saveur. Donc ça se goûte.
Exact.
Plus qu'un discours, et on ne peut pas en discourir. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références de la musique, des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est notre ami Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Eric Carrère et la réalisation est assumée aujourd'hui par Marie-Laure Ciboulet.